Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilles Darbribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit en direct. Évidemment, l'after est là, l'émission qui dit tout au secret du monde du football. Pense tout bas. Daniel Riolo est là, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là également, salut Florent.
Salut à tous et salut aux amis du bémol.
Et vous le savez, c'est le dernier jour ce soir du Mercato, même la dernière heure du Mercato dans quelques instants. Et donc nous avons notre spécialiste du Mercato, l'homme qui a toutes les infos, Fabrice Hawkins est avec nous. Salut Fabrice.
Salut Gilbert, salut à tous.
Alors on va parler un petit peu Ligue 2 quand même.
J'en profite pour dire à ma fille d'éteindre, parce qu'il est tard et que comme elle a pris la fâcheuse habitude d'écouter l'after le soir, maintenant je me permettrai de lui dire, tu peux éteindre. 22h48, comme exceptionnellement on a commencé tard. Comme ça va plus vite quoi.
Très bien, le message est passé. Alors quelques résultats les gars avant de parler Ligue 1, Ligue 2 également ce soir en plus du Mercato. Donc il y a quelques matchs européens aussi hein, ce soir, Coupe d'Italie, Coupe d'Allemagne, l'Union Berlin par exemple se qualifie ce soir en Coupe d'Allemagne, en Coupe d'Italie, l'Inter est en train d'éliminer l'Atalanta, il reste quelques secondes à jouer, 1-0 pour l'Inter. On a également de la Coupe de la Ligue en Angleterre, match retour de demi-finale, Newcastle bat Southampton 2-1. Puis tiens, vous savez qu'en ce moment ce joue en Algérie le CHAN, c'est-à-dire la CAN des locaux, des joueurs qui jouent dans les
pays clubs locaux
qui représentent, voilà. Et la finale opposera l'Algérie au Sénégal. L'Algérie a battu le Niger en demi-finale 5-0 aujourd'hui, et le Sénégal a battu Madagascar 1-0. Donc le Sénégal enchaîne entre finale de CAN et finale donc de CHAN. Benfica joue actuellement à Arouca, 1-0 pour Benfica après une demi-heure. Et puis donc la Ligue 2. Alors on va dire un mot des principaux résultats dans quelques instants, mais le gros match du jour c'était Bordeaux-Le Havre, et Le Havre a gagné à Bordeaux 2-1. Et puis là on a Sochaux qui monte sur le podium des deux, parce que vous savez qu'il y a que deux montées. Sochaux a gagné 4-0 face à Valenciennes. Sinon Saint-Etienne, ça va toujours aussi mal. Défaite 2-0 à Bastia. Voilà pour les principaux résultats. Vous retrouvez tous les autres sur RMC Sport.fr. Fabrice, pars pas là.
S'il s'est levé comme ça sur son téléphone, c'est qu'il y a grosse info dans deux minutes qui arrive. Là.
Ah ouais, il était là après l'interview. Tout à coup, il s'est levé en furie avec son téléphone.
Ouais, ça veut dire que c'est le coup de fil là, qui peut changer beaucoup de choses sur les 10 prochaines minutes. Oh là, changement. Nico Villas qui revient. Mais pourquoi?
Nico Villas revient. Qu'est-ce qui se passe? Oui.
Parce que. Nico, t'as chopé l'info sur le trajet ou pas? Parce que sinon, tu vas servir à rien.
On va profiter de la présence de Nico pour dire un mot de Vitinha.
Fermé, autant que je reste. Hein. Ça va, les gars?
La 13 est fermée? Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, ils font des travaux, les mecs.
Mais comment tu vas rentrer chez toi?
Je vais devoir contourner.
Non, prendre la 12.
Non, je passe par Ville d'Avray.
Ville d'Avray, par Chiborizian.
Ces conversations
par les étangs de Ville d'Avray. Les états de Corot.
C'est là où l'ancien mec qui était venu au PSG, ils avaient fait croire que c'était un joueur de foot, a ouvert la pizzeria à Ville d'Avray.
Oh.
Ouais.
Et c'est un portugais, là.
Une banane qu'ils avaient refilée, là, le Deschamps portugais, je sais pas quoi, à l'époque,
bien sûr.
Fin des années 90. Là.
Le Deschamps portugais.
Oui, un gars qui en fait n'était pas un vrai joueur. Mais ils l'ont signé quand même.
D'Agostinho?
Non, pas Agostinho, c'est un vrai joueur, lui. Bon, bref, un autre. Comment il s'appelait?
Il faisait des bonnes pizzas, au moins?
Ah, ça, je sais pas.
Des pizzas portugaises.
Les pizzas portugaises.
Comment tu gagnes portugais avec de la morue. Pizza, soyons sérieux.
Je sais
quand même
pas s'il y a un mec qui a lancé ça, la pizza à la morue.
Ouais, j'ai un concept.
Non, mais
la
raison.
La pizza baccalauréat.
Sinon, t'es venu pourquoi?
Non, mais alors, t'es venu nous parler de la nouvelle attaquant, forcément star de l'OM, parce que vu le prix. Oui. C'est assez étonnant. Alors, raconte-nous qui est Vitinha, le numéro 9 de Braga.
Alors, c'est vrai que c'est un peu étonnant, parce que vu le tarif, c'est-à-dire que s'il paye les fameux 32 millions d'euros qui sont annoncés avec les bonus, ça veut dire que Vitinha deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Plus cher que Payet encore. Et il deviendrait aussi par la même la vente la plus chère de l'histoire de Braga. Jusque-là, c'était Trincão qui avait été vendu au Barça et qui maintenant est au Sporting prêté par le Barça. Attaquant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui est bon des deux pieds, qui est bon de la tête également, très très actif devant, c'est-à-dire que moi je suis défenseur adverse de l'OM, je vois Alexis Sanchez et Vitinha devant moi, franchement je me dis les gars, va falloir soigner leur lance et tout, parce que niveau pressing ça va y aller, c'est un mec qui court partout, faut regarder sa heatmap, hein, ils sont les zones de jeu où il touche le plus de ballons, c'est assez impressionnant. Alors il joue plus vers la gauche parce que Braga joue avec deux attaquants et que lui c'est plutôt l'attaquant gauche, mais il peut jouer 9 et demi, c'est un mec assez complet.
C'est quand même un joueur qui, par rapport à Sanchez, dont tu parles, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai regardé un peu cet après-midi. Ce que tu dis pour aller dans ton sens, il y a une stat, je te l'ai donné à l'instant, là. Dans les 5 grands championnats européens, parmi tous les attaquants des 5 grands championnats européens, il est le deuxième, disons, en termes de duel, de récup et de course à haute intensité.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire, en gros, c'est ce que très tu généreux, dis là, ouais. Ce qui rejoint.
Ça veut dire qu'il a des stats de milieu de terrain alors qu'il avance.
Ouais, exactement. En fait. Oui, oui, mais et par ailleurs, c'est quand même un attaquant, comme l'a dit Nico, qui marque des deux pieds.
Il est plutôt à droit. Hein.
Et surtout, par rapport à ce que tu dis, c'est pas tout à fait l'idée d'un. Comment dire, qui permettra à Alexis de se reculer d'un cran, mais plutôt d'être complémentaire avec lui à jouer à deux devant. Je vois plutôt à jouer à deux devant, Vitinha, ouais, jouer seul.
Bah, comme je te dis, là, Braga, ils sont quand même deuxième, hein, dans le championnat. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, une vraie ambition qui d'ailleurs est complètement décomplexée et assumée, que ce soit de la part du président ou de l'entraîneur. Ils veulent remporter les titres. Alors, le championnat, le Benfica est quand même bien parti.
Là, c'est un coup dur pour eux quand même qu'ils s'en aillent alors.
Bah, coup dur à 32 millions, c'est surtout un coup, c'est OUT. Hein.
Coup dur sportif.
Mais sportivement, forcément. Bon, après, attention. Ils ont pris, eux, ils sont renforcés, hein, cet hiver, hein, aussi. Hein. Ils ont pris Pizzi qui revient. Ils ont pris Bruma également qui arrive aussi. Ils ont gardé Horta qui était un joueur qui était très courtisé, notamment par le Benfica également, qui est l'autre goléador de cette équipe. Mais en revanche, pour Vitinha, tout à l'heure, on en parlait sur Twitch avec les gars, avec cette fameuse expression, est-ce que c'est un crack ou pas ? À l'échelle de Braga, c'est un crack. Le truc, c'est que il va quitter son cocon pour la première fois. Il va découvrir un nouvel univers. Il connaît pas la Ligue 1, il connaît pas la culture, il connaît pas le championnat, et surtout,
il a pas joué à très haut niveau.
Il connaît pas la Ligue des Champions. Après,
il est bon en Coupe d'Europe. Dans une attente qui est forcément, il a marqué en Europa League.
Il a des très bonnes stats en Europa League.
4 buts, je crois.
Ouais, il a des très bonnes stats. Après, la diff, c'est, il va y avoir une attente qui est liée à son prix,
même s'il faut gérer dans les premiers gros transferts pour un joueur.
Et puis, la réalité est pas la même. C'est-à-dire que Braga, tout à l'heure, j'écoutais une conf de presse de Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting. On l'interrogeait sur le mercato et sur le fait qu'il soit derrière Braga au classement. Mais il dit, et lui, il a été entraîneur de Braga, Ruben Amorim. Et il dit, mais vous savez, la différence entre un Braga et un Sporting, c'est qu'un joueur de Braga, il n'a pas la moitié de la pression d'un joueur du Sporting. Mmh. Et dites-vous que là, il ne va pas être au Sporting, il va être à l'OM, qui est un club où il y a une irrationalité totale, où il n'y a pas de titre depuis 10 ans, mais où les mecs attendent des résultats en permanence. Donc, ça va être difficile à entendre pour les supporters de l'OM, mais il va falloir de la patience face à un mec que t'as payé plus de 30 millions d'euros. Et ça va être difficile à entendre, mais il va bien lui en falloir. Hein. Il va découvrir un univers différent. Il arrive en cours de saison alors que le train est en marche et qu'il est plutôt bien lancé également. Cela dit, tout à l'heure, on a eu Rolando. D'ailleurs, on peut le retrouver en podcast sur l'After Marseille. Lui disait, il doit progresser encore, notamment au niveau de son placement et tactiquement. Et moi, je pense que Tudor, c'est le mec qui va le faire progresser à ce niveau.
T'as appelé Rolando, le Ballon d'Or ?
Ouais. Ah ouais, on a eu Rolando. Bah, Rolando a joué avec lui à Braga. Il a joué à l'OM aussi.
De l'équipe, Rolando Ballon d'Or.
Ouais, après son but en demi-finale de Coupe d'Europe, ouais.
J'ai retrouvé le nom du joueur.
Vas-y.
Elder.
Ah, Batista. Tu sais que c'était un bon joueur en plus, lui. Hein.
Bah, c'était pas un bon joueur, c'était un faux joueur.
Bah, c'était un bon joueur, pourtant.
Bah, il est venu au PSG, il a pas fait un match derrière, on l'a jamais revu, il a ouvert sa pizzeria.
Si, il est pas reparti au Rayo, je crois.
Il a fait 5 matchs. On a vérifié.
Elder, il a fait 5 matchs.
Ouais, il a été blessé. Ouais,
ouais,
il y en a eu quelques-uns comme ça.
Franchement, ouais. À cette époque-là au PSG, paquet de bananes qui sont arrivés, ça je te garantis.
Mais pourtant, c'est
champion du monde des bananes à ce moment-là.
C'était pas un joueur dégueu en plus, hein, mais. Et pire.
Mais je crois que c'était pas lui qu'on appelait le Deschamps portugais.
J'ai un message sur direction de Larry qui me dit: je suis actuellement sur l'A13. Quel mytho ce Villa, c'est ouvert.
Sérieux? Donc ma femme m'a menti, donc elle voulait pas que je rentre.
Ah, il y a un problème là.
Oh putain.
Peut-être qu'elle a pas dit à Roger de se barrer.
Oh putain.
On reste avec nous. Ah, mais je dis ça pour toi.
Ouais, ouais, c'est sympa. Ouais, faut pas rentrer tout de suite.
Ouais.
Elle a peut-être rouvert.
Bon, merci Nico. Alors, merci juste quand même. Alors, je sais pas si t'as les infos là-dessus. Hier soir, on était plutôt sur une tendance où il venait pas. Parce que je disais, il va aller à Brighton.
Brighton, Southampton.
Et finalement, donc, il y avait un retournement de situation dans la journée, là.
Ouais, alors, il y avait Southampton et Brighton. Alors, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Regardez l'historique des climats.
Non, mais lui, visiblement, était vraiment très très chaud pour aller à l'OM. Bon, bah, après, on peut imaginer pourquoi. Hein. Il va dans un club qui va jouer la Coupe d'Europe, etc. Peut-être, alors ça, en revanche, on n'a pas les infos. Peut-être qu'au niveau salarial aussi.
L'année prochaine, la Coupe d'Europe, hein, pas cette année.
Non, mais t'as plus de probabilité, on va dire, de la jouer
avec un OM cette année. Oui, que tu la joues avec l'OM cette année qu'avec Brighton.
Même si Brighton, c'est pas mal. Ou qu'avec un Southampton. Non, en revanche, si, c'est ça que je voulais vous dire. Le truc qui est un peu marrant, on en parlait tout à l'heure, c'est que, en octobre dernier, donc ça a été officialisé, QSI a acheté près de 30% des parts de la Société Anonyme Sportive de Braga. Donc QSI est actionnaire de Braga. Donc c'est quand même marrant que Marseille à y acheter un joueur, un club qui est détenu en partie par le PSG. C'est quand même assez drôle comme truc. Ah, au Portugal, il y en a pas mal qui ont parlé de ça justement en se disant.
Bah, après, cela dit, on voit aussi des joueurs. On a vu dans l'histoire des joueurs du PSG qui vont directement à Marseille. Hein.
Non, mais c'est pas la question. Mais ouais. C'est, disons que c'est rigolo, quoi, de te dire que c'est l'oseille de Marseille qui est en train de renflouer les caisses d'un club dans lequel le PSG a mis des billes, quoi. Donc c'est au Portugal.
Oui, mais qui gère Braga au niveau transfert?
Bah, c'est Antero. Enfin, Antero gère pas au niveau transfert. Ils ont leur structure à eux.
Antero est briqué.
Antonio Salvador, le président de Braga,
Antero doit forcément 2003. Être au courant.
Il est au courant. Parce que Antero, et ça, c'est Nasser qui l'a dit, Nasser Al-Khelaifi, dans une interview, à partir du moment où ils ont donné des pouvoirs sportifs au niveau du recrutement à Luis Campos, qui s'entendait pas bien avec Antero Henrique, l'interview qu'il avait faite chez Rotten en septembre dernier était assez claire à ce niveau-là, plus les tirs qui s'est mangé en conf de presse Antero Henrique de la part de Christophe Galtier aussi. Antero Henrique est l'homme qui représente, entre guillemets, le PSG au sein de Braga. Donc, oui, forcément, il est au courant de ce qui se trame concernant cette vente historique de
Vitinha. Il n'y a pas un deal qui se fait sans qu'il soit au courant, mais ça se demandait même si c'est pas la même chose au PSG.
C'est-à-dire?
Il est encore aux affaires.
Antero,
il est encore dans les.
Bah, il bosse pas pour la Ligue Qatari, hein. Les directeurs sportifs de la Ligue Qatari. Donc,
les mecs qui bossent pour le PSG, ils bossent toujours pour les autres. Ils bossent pour la Ligue Qatari, pour Celta Vigo.
En plus, il fait directeur de Celta Vigo. Et,
C'est les sportifs, ouais.
Non, mais faudra voir si, même sur le transfert qui vient de se faire au PSG, si Antero a également mis le nez dedans.
Nico, merci. La 13 est ouverte, tu peux rentrer à la maison. dans quelques instants, la suite du Mercato, la Ligue 2, la Ligue 1. On est là jusqu'à minuit dans l'after.
Il est revenu.
Il est revenu. J'espère une grosse info, parce que c'est juste pour le dire que c'est ta commande de.
T'es comme ça 5 minutes.
Non, c'est pas ta livraison de pizza.
Non, non, non. Ziyech, c'est bouclé, je vous le tease.
Ah. Allez, à tout de suite pour toutes les infos.
Ziyech.
RMC. On n'est pas une équipe qui a forcément beaucoup de bagarre, donc va falloir être plus malin, plus intelligent.
On n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fait le boulot ce soir, et on a tendu la joue pour se faire fesser.
C'est la goutte d'eau qui met chaud aux poudres, si je puis dire.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec Florent Gautreau et avec donc Fabrice Hawkins, c'est son alerte Mercato, puisqu'il reste désormais 59 minutes de Mercato. L'alerte Mercato, c'est ça. Maurice, tu as la parole. Tu nous as vendu un truc.
Oui, Hakim Ziyech, donc qui a trouvé un accord, on le savait déjà, avec le Paris Saint-Germain, qui était à la Factory depuis plusieurs heures maintenant, et qui a.
Alors la Factory, c'est un immeuble de bureau.
Oui, le siège. Qu'est-ce qu'il foutait toutes ces heures? Pourquoi ils ont mis autant de temps à officialiser?
Bah parce qu'il fallait que le Paris Saint-Germain trouve un accord. Avec Chelsea.
Il est arrivé. Bah et ce matin, il est arrivé. Il a débarqué en avion et tout. Il venait. Il a pas été trouvé.
Il a passé la visite médicale. Après, il s'est installé tranquillement dans l'hôtel en attendant que les deux clubs trouvent un accord.
Quel hôtel ils l'ont mis?
À ton avis?
Non, je sais pas.
Un grand palace parisien, détenu par le club.
Ah ouais.
Qatar.
Et donc, quand même des hôtels à Paris, ils peuvent.
Bah, le Peninsula notamment.
Voilà. Ouais. C'est chez eux.
Sache qu'on est écouté au Peninsula. Je salue mes amis du Peninsula.
Oh.
Ça te surprend, hein?
Non,
je t'en raconterai.
Plus rien ne me surprend.
Je t'en raconterai.
Très sec donc pour Hakim Ziyech, et puis dans la foulée, c'est une info RMC, Ismaël Garbi.
Très sec, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de thune?
Voilà, exactement.
Juste prêté, quoi.
Voilà, c'est un prêt très sec jusqu'à la fin de la saison pour Hakim Ziyech. Ça a négocié, hein. Ça a négocié beaucoup sur inclure une option d'achat. S'il y a une option d'achat, quel est le montant de cette option d'achat? Et finalement, c'est cette option qui a été privilégiée. Je vous le disais dans la foulée, information RMC Sport, ça négocie entre Nice et le Paris Saint-Germain pour que Nice puisse récupérer Ismaël Garbi, jeune titi du Paris Saint-Germain, qui a fait quelques apparitions
en prêt aussi,
en professionnel. Voilà, en prêt sec, parce que l'idée du côté de Luis Campos et du Paris Saint-Germain, c'est de le conserver. Ils croient beaucoup en ce jeune et ils veulent pas le laisser partir outre mesure, mais ça va être compliqué de finaliser ce prêt, parce que de ce qu'on me disait, il restait pas beaucoup de temps, et c'est la réalité, puisque ça vient de se terminer, hein, 23h03, le contrat, il doit être envoyé à l'LFP à 23h. Et ensuite, on a jusqu'à 1h, les clubs ont 1h pour envoyer les contrats à la FIFA. Donc, ils avaient très très peu de temps pour finaliser le deal. On va savoir si ça s'est fait dans quelques instants. Donc, voilà ce qu'on peut dire.
D'habitude, c'est minuit.
Ah oui, mais ça a changé depuis le dernier mercato.
Ah, donc là, c'est fini alors?
Bah oui, c'est fini depuis 23h et maintenant, il faut envoyer les contrats à l'international, enfin à la FIFA.
Ah oui, d'accord, il y a toujours cette fenêtre-là.
Ouais, voilà.
Donc là, par exemple, des mouvements à 23h03 et 54 secondes, le mouvement entre clubs français, c'est fini.
On peut plus envoyer.
Ou alors, on n'est pas au courant, il y en a peut-être eu qui se sont faits, mais on n'est pas au courant.
Oui, c'est ça. Ça aussi, ça peut tomber. On est 23h et
on a une heure de retard, on est en décalage horaire avec Fabrice.
Non, pas du tout.
Fabrice, si tu fous là, tu fallait venir avant.
Ah non, mais bon, cela dit, c'est bien parce que ça va nous permettre de faire un petit bilan club par club dans quelques minutes. Faisons les choses dans l'ordre. Fabrice, je te laisse au téléphone avec tes amis, agents, directeurs sportifs et tout. Parce que je voulais quand même qu'on dise un mot de la Ligue 2 là.
Combien de fois sur une dernière journée de mercato, tu l'as rechargé combien de fois ton téléphone?
Il est tout le temps.
Il est sur batterie forcément. C'est ça. C'est ça les derniers jours de mercato pour un journaliste taquet comme Fabrice.
Chapeau.
Constamment branché.
Je sais que Flo a suivi plus la Ligue 2 que Daniel.
Il y avait une journée de Ligue 2.
Oui, c'est ça, m'a échappé. Flo, tu retiens quoi exprès, le Paris FC qui perd encore, le coup du Havre à Bordeaux,
Sochaux
qui revient fort.
Le vrai choc, c'était Bordeaux.
Le Havre, parce que le Havre, dans ce match, ils ont montré ce qu'était la vraie équipe qui va monter par rapport à la fausse.
10 points d'avance ce soir. Hein.
10 points d'avance sur Bordeaux.
Sur Sochaux, mais qui le fera pas.
Ouais, qui le fera peut-être pas parce que Bordeaux n'a pas été mauvais d'ailleurs, a plutôt occupé, d'ailleurs, était dans le camp havrais une grande partie du match. Mais là, on voit la maturité déjà des Havrais cette saison, c'est qu'ils ont géré, c'est eux qui ont eu la main sur les occasions les plus importantes. Donc, cette équipe, elle est assez impressionnante. Ils ont un peu de chance aussi parce que, tiens, après, tu parlais d'Isidore hier, toi. Daniel, et c'est Casimir qui a marqué un but un peu improbable parce qu'il a dit, il a voulu faire une remise en première intention et ça s'est transformé en centre-tir.
Centre-raté, but.
Mais en dehors de ça, le Havre a plein d'atouts et notamment, alors Bordeaux a marqué un but au Havre, c'est à noter parce que le Havre prend très peu de buts, mais rien que pour ça, pour leur solidité défensive et leur efficacité, pour le travail que fait Elsner, Mathieu Bonnemer, directeur sportif, là on a
9 buts encaissés en 21 matchs à Bordeaux.
Et après, ce qu'il faut voir quand même, ce que je retiens, l'autre truc, c'est Bastia. Parce que Bastia fait un truc de dingue dans
Bastia
ce championnat.
Revient fort, ouais.
Et il y a un truc à faire. T'as parlé de Sochaux, c'est pour ça que j'en parle pas, parce que c'est eux qui font la belle opération là, en haut de tableau. Mais Bastia est quatrième, mais ils sont à 2 points de la deuxième place. Ils sont totalement dans la course.
En fait, il y a 6 équipes qui se tiennent en 3 points pour la deuxième place. Sochaux, Bordeaux, Bastia, Metz, Amiens et Grenoble.
Exactement. Donc c'est très serré, mais l'équipe surprise et qui a quand même battu Saint-Etienne ce soir dans une belle ambiance, c'est Bastia qui est l'équipe un peu surprenante, mais qui mérite cette place-là. Et dans les, bon après c'est des choses moins haut de tableau, hein, mais c'est Dijon qui est complètement à la ramasse, qui a perdu à Laval ce soir, qui est 17e ce soir.
On a Claude qui est supporter des Girondins. C'est longtemps qu'on n'a pas fait un petit point bordelais. Salut Claude.
Bonsoir à tous. Salut, bonsoir Claude. Gilbert. Bonsoir. Oula. Daniel. Bonsoir Flo.
Salut.
Bonsoir.
Pas la forme, Claude.
Pas la forme, parce que bah, comme l'a dit Flo, en vrai, le Havre mérite un peu parce qu'ils ont bien géré leur match. Et c'est vrai que nous, de notre côté, à Bordeaux, il nous manque des éléments, notamment au milieu de terrain. Notre milieu de terrain, il est vraiment, c'est une catastrophe. C'est trop jeune encore et on n'a pas vraiment de clé au milieu de terrain. Et surtout, c'est important à ce niveau-là, en Ligue 2, on n'a pas de goal rassurant, en fait. Ouais. Notre goal, il est vraiment pas rassurant. Il s'est flippé, il fait pas un arrêt. Et en face, justement, au Havre, ils avaient un gardien qui a fait de très beaux arrêts, d'ailleurs, en première mi-temps, notamment.
Desmas,
ouais. Donc, ouais, exactement. Donc, vraiment, non, c'est vrai que c'est pas très rassurant, ce match, pour la suite, parce que fallait au moins faire un nul, au moins, pour être en confiance face à cette équipe. Mais ils ont le destin avec eux, ils ont la chance avec eux, et ils ont le jeu aussi avec eux. Donc, bon, voilà, on est un peu déçu, moi en tout cas je suis très déçu par la tournure de ce match. Mais
là où t'as raison.
Mais si c'est le gardien de Bordeaux, c'est Gaëtan Poussin.
C'est vrai qu'il est un peu juste. Là où t'as raison, c'est que ce qui était intéressant ce soir, c'est que le Havre, c'est le négatif de Bordeaux. C'est-à-dire que ils ont un bon gardien. Bon, défensivement, c'est très solide. La salle des machines, le milieu de terrain, c'est clairement le Havre qui a mangé. Mais en face, t'as Franck Sergio, Lacou, Manga. Franchement, c'est trop juste. Ouais. Et après, t'as des gars, par exemple, à Bordeaux, typiques de l'action. Le premier but à vrai. T'as Greg Hersen, qui est très solide dans les duels, mais qui a été nul sur la relance, qui se fait prendre le ballon par Havre et qui concède un but derrière immédiat. Donc
Vidal Nsimba qui marque, il a la carte
exact. Sur coup de pied arrêté, oui, c'est presque, enfin pour moi c'est même un CSC, mais oui, en fait on a du talent devant, parce que vraiment devant il y a le petit géorgien Davidashvili qui est vraiment pas mal.
Et c'est d'ailleurs celui qui a porté le danger, c'est lui.
Et Maja, il devait partir à chaque mercato, il est encore là.
Ouais, ouais, il est encore là.
Alors Maja que j'adore, j'aime beaucoup, mais là par exemple ce soir, pareil quoi, les défauts de ses qualités. C'est un bon attaquant, mais il fait pas des efforts. Là aujourd'hui, c'est pas montré pendant 30-40 minutes. C'est ça qui est frustrant pour les supporters, j'imagine, à Bordeaux. Mais effectivement, ouais, t'as raison de souligner, s'il y a un joueur à retenir, c'est Davidashvili qui a été le plus dangereux, à mon avis, sur le côté.
Dis-moi, alors, le problème, c'est que maintenant, on a l'impression qu'il n'y a plus qu'une place, en fait, hein, parce que Le Havre, ils sont partis, quoi.
C'est ça.
C'est ça, Claude.
Là, ça va vraiment être coupé. La première place, pour moi, c'est fait, hein. Le Havre, ils vont monter, là, 10 points d'avance, et en plus, ils gèrent très bien leur match, donc il n'y a rien à dire. Et moi, ben là, ça va être flippant, là, parce que Sochaux, ils sont là, ils ont une bonne équipe, ou quand on les a joués là d'ailleurs à Bordeaux, on les a battus, mais vraiment en fait ils étaient meilleurs. Hein. Il y avait pas grand chose à dire, mais on a réussi à les battre. Et derrière il y a Bastia qui pousse, donc ça va se jouer à des matchs comme celui de Dijon par exemple la semaine dernière, le week-end dernier qu'on gagne. Voilà, ce sera ce genre de match qu'il faudra gagner absolument. Et vraiment j'espère que vraiment on va tenir le coup, on va continuer à prendre des points face à des adversaires entre guillemets plus faibles, qui sont moins bien classés que nous, et là sur ça là-dessus en tout cas je pense qu'on pourra au moins compter sur une bonne attaque. Et il faudra derrière que le milieu il assure et que ce gardien fasse des arrêts quoi, parce que vraiment c'est juste pas possible, il en fait aucun.
Bon. C'est sinon, à signaler quand même une belle ambiance à Bordeaux, stade.
Je très belle ambiance, ouais.
Complètement
ouais,
plein,
ambiance.
Mais enfin, en tout cas, voilà, une ambiance Ligue 1, quoi.
Ouais, le virage sud est toujours plein de toute façon. Voilà, après le stade était plein. Bon, enfin, plein en mode Ligue 2 parce qu'on a, il y a pas la partie haute du terrain qui n'est pas disponible en Ligue 2. Donc voilà, le stade en mode Ligue 2 était plein et le virage sud fait toujours autant plaisir à voir, vraiment, qui fait toujours autant de bruit. Et ça fait plaisir. J'espère vraiment qu'on pourra retrouver cette Ligue 1 pour ces supporters-là, en tout cas.
Merci Claude et bon bah bonne on croise les doigts pour Bordeaux. Hein.
Merci à vous, merci. Bonne soirée.
Salut Claude. Voilà pour la Ligue 2. Juste le Paris FC qui était quand même un candidat à la montée, hein, qu'on présentait comme
ouais, pour ça, certains.
C'est une saison un peu pourrie quand même.
Pas pour moi.
Pas pour toi.
Non. C'était dit dans l'after cet été. Non, moi c'est l'équipe qui finit toujours au pied du podium et là elle va même pas finir au pied du podium. Non, il y a pas trop de surprise à ce niveau-là. Non, le plus inquiétant, c'est Saint-Étienne, à force.
Ah oui, oui. Qui toujours avant-dernier avec 18 points et 4 points de retard sur le 16e. Parce qu'il y en a 4 qui descendent, je rappelle, en Ligue 2. Bon. Voilà. Et puis, il y a un petit mot d'Annecy, quand même. Une petite équipe surprise, Annecy. Je sais qu'Edouard G, la suite près. Annecy qui monte, là, et qui est 9e. D'ailleurs, c'est pas encore sauvé.
Et qui a battu Caen.
Exactement.
Et qui est une équipe qui, elle aussi, voulait monter. Qui aura du mal. Donc non, c'est l'équipe qui s'en sort bien. Et à l'inverse, un historique de la Ligue 2 qui va disparaître, senior. Et c'est en train de s'écrouler complètement, qui est dernier.
Merci Florent. Tu remarqueras que Daniel était très présent sur ce débat Ligue 2. Parce qu'il se concentre sur le mercato, Daniel, c'est pour ça.
Mais moi, je suis avec Fabrice, là, on bosse. Là,
apparemment, il y a une.
Fulgini à Lens, ça m'avait échappé. Vous saviez ?
Ah non, je ne savais pas.
Angelo Fulgini, qui était à Mayence, et bien arrive à Lens, là, ce soir, et ça m'avait échappé.
Figure-toi que j'ai été intéressé à lui ces dernières
fois. Oui, et je l'ai vu.
Trois aussi, c'était intéressé à lui, mais.
Je l'ai vu jouer la semaine dernière avec Ajorc, à l'occasion du premier match d'Ajorc, qui jouait, il est entré avec Ajorc à Mayence.
J'aime beaucoup ce joueur, qu'on a forcément perdu de vue, puisqu'il est dans un club moyen en Allemagne, mais là, s'il revient dans le championnat de France, c'est une bonne chose. Bonne recrue. Lens étoffe son effectif.
Et surtout Lens ces derniers temps, tu sais, c'est souvent comme ça quand t'as le karma pour toi, elle se trompe rarement dans ses recrutements. Ouais, vous avez vu Thomasson, efficacité directe là.
Exactement.
Donc on va voir ce que ça donne pour.
Apparemment, il y aurait une panne informatique à la Ligue.
Ouais, effectivement, c'est les échos que j'ai aussi. Il y a une petite panne qui va donner un petit peu de rage.
Ils ont fait exploser le serveur.
Bah, vous savez comment ça se passe. Souvent, tout arrive à la dernière minute. Et c'est d'ailleurs.
Là, il faut expliquer comment ça se passe. En fait, il y a un logiciel, c'est ça. Hein, et puis les clubs rentrent les données nécessaires pour enregistrer le. Avant l'heure fatidique, enregistrer les éléments, quoi.
Exactement. Avant 23h, là, en l'occurrence. Et ils avaient la fâcheuse habitude de tout enregistrer au dernier moment. Et du coup, ça décalait un petit peu tout. Il y avait des frustrations aussi avec des transferts qui ne pouvaient pas se faire. Et du coup, c'est pour ça que, lors du dernier mercato, ils ont dit, bon, on va avancer d'une heure pour éviter, justement, ces petits soucis-là. Et bon,
excuse-moi d'avoir toujours laissé mal placé, mais, je sais pas, t'es en retard sur un transfert, là. Tu t'envoies un pote à toi, un informaticien, tu dis, vas-y, fais-moi craquer le logiciel de la Ligue, là, comme ça, on gagne 2 heures.
Ça, je ne sais pas si c'est des choses qui sont possibles, mais.
Bon, je ne pense pas quand même. J'espère pas. Alors, ce qu'on va faire, on reste ensemble, évidemment. Fabrice, dans quelques instants, on va faire un petit bilan. On va donner toutes les infos qu'on n'a pas encore données. On va débattre quand même de l'apport ou pas de Ziyech, parce que, mine de rien, depuis ce matin, ça fait débat. Certains disent que ça sert à rien, d'autres trouvent que c'est super. On en a un peu parlé hier avec Walid Regragui, mais c'était pas encore officialisé. Ce mercato a également suscité un avis de Flo qui veut se concentrer sur le cas de l'OGC Nice. Ce sera avant minuit, on débattra évidemment. Donc spécial mercato et Ligue 1 dans l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
23h15, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Fabrice Hawkins, notre homme du mercato, avec une petite évolution Ziyech là.
Oui, effectivement, c'est mieux toujours en ouvrant ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que Hakim Ziyech, il y a un accord entre tout le monde, entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Évidemment, Hakim Ziyech et le Paris Saint-Germain. Maintenant, il s'agit de signer les documents. Et pour l'instant, en tout cas, sachant qu'il y a une heure de décalage entre Londres et Paris, les documents sont toujours pas signés. Donc,
ça peut sortir mauvais cette affaire-là.
Ouais, et puis surtout, ça peut aussi remettre en cause le départ en prêt d'Ismaël Garbi, lui qui espère partir en prêt à Nice. Pour l'instant, c'est un petit peu gelé tout ça. Donc, on va continuer à suivre ça, hein, minute après minute. Mais pour l'instant, il y a.
On va pas faire le débat. Savoir si Ziyech c'est bien qu'il soit là ou pas, vu qu'il n'est pas encore là.
Il y a quand même de grandes chances que ça s'arrange.
Oui, et puis il y a la petite panne informatique qui arrange tout le monde.
Voilà. tu disais que je m'intéressais pas à la Ligue 2.
Ouais.
Bon, c'est pas complètement faux. Néanmoins, ton ancien coach.
Thierry Loret.
On va sauter.
Ah, tu t'intéresses pas parce qu'on en a parlé.
Attends, petite info du soir, il pourrait. D'accord. Ouais, écoute, là, 3 défaites d'affilée là.
C'est sûr, un club qui joue la montée. T'en es là.
Il est pas bien.
Il est pas bien.
Il est sur la sellette.
Il est sur un siège.
Non, il a deux doigts de se faire virer. Voilà.
Bon. Alors, j'attends les supporters de l'OM, moi, au 32-16. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Vitinha? En sachant que, tout à l'heure, donc, Nico nous disait que c'est le transfert donc, record de l'OM. On parle de 32 millions. Donc, la clause libératoire était de 30 millions. Alors, en fait, Longoria, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'on présente toujours Longoria comme un mec très fort sur le mercato. Là, il a quand même craqué, le portefeuille.
Il va falloir qu'il vende, là, parce qu'il dépense beaucoup trop d'argent.
Oui, puis surtout pour un joueur. Il y a assez peu de garanties au final concernant Vitinha, on en parlait tout à l'heure.
Oui, mais le comme d'habitude, il tient pas.
Non, mais je suis d'accord.
Il va falloir que de l'oseille rentre. Hein.
En fait, ça ressemble à un panic buy dans la forme. C'est-à-dire qu'il a raté Mofi, et tu te dis que quand même l'histoire du 9, là, c'était capital, c'était important. Moi, je trouve bien qu'il l'ait fait. Je pense que le profil est quand même totalement Tudor compatible, on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est plutôt bien. Mais. Le prix, effectivement, tu sens qu'il y a
je
eu.
Je me demande s'il n'y a pas déjà un peu d'oseille de la Ligue des Champions de l'année prochaine.
Ouais.
Que genre, si par catastrophe, il devait finir quatrième.
Ouais. C'est pas bien. Ouais.
Là, je pense que t'es pas bien. Je pense qu'il y a une petite anticipation de la rentrée d'oseille.
Je suis d'accord. Et c'est en ce sens que tu as senti, là, dans cette fin de mercato où tu t'es dit à un moment donné, bon, voilà, Mofi, il est parti à Lorient, il allait le convaincre, ouais. Ça va le faire tranquillement, on va être serein 3 jours avant la fin. Ça n'a pas été le cas.
En gros, il pouvait pas rentrer à la maison sans rien.
Non. Et là, quelque part, il s'est dit. Donc, c'est pas le panic buy dans le sens où c'est pas le mauvais choix ou le truc improbable, parce que c'est un joueur qui va sans doute.
T'es sorti faire les courses, tu peux pas revenir sans rien. Quoi.
Et t'as sorti quand même. T'es retourné au distributeur pour reprendre de l'argent, quoi. T'avais décidé de prendre des trucs pour 100 balles et
ouais,
t'es reparti.
Pour faire les soldes, et puis en fait, t'as pris dans la nouvelle collection, ouais, mais t'avais pas assez de thunes.
J'ai l'impression de vivre ma vie, là.
Ah, pourquoi c'est ce que tu fais, toi, quand tu fais les soldes? En fait, t'achètes des soldes non soldés, toi.
T'as des trucs qui sont pas soldés.
J'ai toujours un truc qui n'est pas soldé. Et l'autre jour, j'ai eu un miracle qui s'est passé en direct.
Non, je veux pas te faire de la peine, mais ça s'appelle être un gogo, ça.
Mais non, c'est-à-dire que je choisis un objet, un vêtement, et je me dis, évidemment, il est pas soldé. Ah, bah non, parce que là, c'est la nouvelle collection. Tu sais, il est sur le rack qui est peint dans le machin.
Ouais, c'est ça.
Mais il m'est arrivé un truc sympa samedi. Je suis allé m'acheter des chaussures de tennis, avec la semelle très particulière, bon là d'une marque qui commence par un B. Bon là, je suis tombé par hasard sur un truc pas mal.
Marque qui commence par un B.
Ouais ouais. Tennis.
C'est pas des bonnes pompes alors.
Bah, tennis, tennis. Hein? Bah, si. Une marque de tennis.
Si t'as pas pris des Asics, c'est Asics qui est top en pompe de tennis.
Ah, bon, je trouve une paire qui était bien, mais elle était évidemment
le mec me dit.
Ouais.
Marque française, Daniel.
Soutien
à l'économie française.
Mais enfin, il est en dessous. Moi, je pense à ses pieds, il est en dessous.
Ouais, je suis peut-être en dessous, mais je suis aussi en dessous en classement, donc c'est je suis sur de mon niveau. Et en fait. Le gars me dit, ah non, celle-là, effectivement, elles ne sont pas soldées.
Ah, tu prends cette marque-là, elle n'est plus pas soldée.
Et, non, mais justement, je lui dis, je pensais que tout était soldé, donc je lui dis, ah bon, machin. Il dit, bon, on va voir. After, il était fan de l'after. Bon. Il regarde, il n'y a que dans un cas, c'est si il ne me reste plus en stock que tant de paires, je peux les démarquer.
Il a croqué.
Et il a rajouté, schlac, schlac, 50%. Il les affiche en direct, il me les a faites à 50%.
Donc, pour le croquage.
Les babolas, 50%. Là, ça les valide.
Voilà, 50%, tu les as payés 10 balles alors.
Pas du tout.
Déjà, ça vaut rien. Donc...
Aïe. Alors là, tu t'es fâché avec une grande partie
avec
de tennis français.
Avec un fournisseur.
Non, pas du tout. Alors, c'est vraiment.
Non, mais alors moi, j'aime pas du tout leur raquette, tu vois. Pour le coup.
Non,
je suis chez Ed.
Tu fais bien.
Mon échéantier, c'est Ed. C'est une grande famille aussi dans les courses hippiques, les Ed.
Bon. Moi, je suis dans la maison en face.
Alors, du coup, je suis perdu. On était parti sur Vitinha et l'OM. Tiens, bon, on a Tom au 32-16 qui est un supporter marseillais. Salut Tom.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Tu pour toi, c'est du panic buy, Vitinha, ou tu te dis bonne affaire, je fais confiance à Longoria qui, en général, ne déçoit pas? Qu'est-ce que t'en penses?
De prime abord, je fais confiance à Longoria puisque depuis maintenant 2-3 mercato, il nous a fait ses preuves. Après, il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur le financier, mais en fait, sur le financier, c'est très clair. Longoria a fait une conférence de presse où il avait dit que l'OM allait être plutôt à l'équilibre à la fin de l'année. Il y a eu une vente de Gerson qui a été faite à 20 millions. Il y a le prêt avec option d'achat quasi obligatoire de Luis Suarez à 9 millions à Almeria. Il y a un contrat qui a été fait avec Vitinha sur 5 ans et demi. Un contrat à la mode Chelsea. Qui
ouais, c'est ça. Ils vont étaler la compta, ouais.
Donc là, il y a un vrai étalement, mais copie un peu de Chelsea, parce que c'est 5 ans et demi de contrat quand même qui ont été signés à Vitinha. Et à la fin de l'année, tu as le contrat de Strootman qui sera pas là pour l'année d'après. Et en gros, ce qui reste, c'est 450 000 euros par mois. Donc au niveau des moyens, on fait pas une folie en réalité. Il est financé le transfert de
Vitinha. Ah, et donc, t'as bien bossé le dossier, Tom, bravo.
Bah, pour le coup, vous additionnez en gros les trois montants que je vous ai dit, et au final, vous vous dites que le risque n'est pas énorme. Et je sais que je me disais tout à l'heure, et je regardais un peu tous les mercatos des clubs de Ligue 1, et même depuis 2-3 saisons, il y a très peu d'équipes en Ligue 1, quand vous voyez l'évolution de l'effectif, qui progresse de mercato en mercato. Et l'OM, on a l'impression que de mercato en mercato, on se renforce. Là, on a trois joueurs, Unai, Malinovski et maintenant Vitinha. Dites-vous qu'il y a quelques années, on avait Radonjić, Kalajdzic et Strootman. Donc, l'évolution.
Ah non, mais Tom, qu'il y a eu une vraie progression dans les joueurs, même si au milieu, il y a eu quelques pommes pourries dans le panier. Néanmoins, là, ça se solidifie, on va dire. Ça devient de plus en plus sérieux et l'équipe progresse, bien sûr.
Et surtout que les pommes pourries, remarquez, les pommes pourries, généralement, elles sont à bas coût. Et on arrive à les extraire assez rapidement. Soirée, ça plante. Direct, la porte de sortie, il est trouvé, il dégage. Ou même, il y a des prêts, des petits prêts que j'avais fait, par exemple, Encham, des joueurs un peu bidons comme ça. Il n'y a pas de risque, puisque, ok, tu t'es planté sur 6 mois, mais d'ailleurs, il dégage. C'est-à-dire qu'on n'a pas gardé, par exemple, comme Strootman à l'époque, un gars qui va te pourrir tes finances pendant 5 ans, à 600 000 par mois, 30 millions de salaire, etc. Les risques qu'on a plantés, avec Longoria en tout cas, on n'a jamais eu de gros problèmes financiers. Ça a été des erreurs, mais sur des petits transferts, en quelque sorte. Donc, ce qui fait qu'on est plutôt à l'aise, on progresse. Avant, on souffrait à chaque mercato, on ne savait pas qui arrivait. Maintenant, on a quelqu'un qui gère, et on a de la chance, je pense, d'avoir quelqu'un qui gère comme lui. Parce que quand je vois certains clubs à côté, même qui ont été rachetés en même temps que nous, comme Bordeaux, comme même Lyon, là, avec Textor, comment ils sont, ou d'autres, ou même Lille, même s'ils ont été champions de France, mais qui ne sont pas aussi bien que nous, aujourd'hui, je trouve qu'on est plutôt bien lotis.
Alors, Tom, juste, je t'apporte une petite précision quand même, parce que tu parlais de 5 ans et demi de contrat. Il faut quand même reprendre les infos de Florent Germain, qui parfois croit qu'on lit pas ses emails, mais on les lit. En fait, c'est 4 ans et demi, parce que 5 ans, en France, c'est pas possible.
Mais ça a été annoncé 5 ans et demi, hein, partout.
C'est interdit, ouais, mais
5 ans, c'est comme le maximum.
Voilà. Ouais, quand tu confirmes, Fabrice.
Oui, c'est ça, c'est 4 ans et demi, 5 ans, c'est le maximum, mais c'est contrat de 4 ans et demi.
Voilà. Et Braga a également négocié 10% de la revente.
Oui, mais c'est franchement 10% de la revente, c'est pas énorme. Il y a des.
Bah, ça dépend. S'il devient un joueur extraordinaire, bon.
Oui, mais Braga a aussi négocié une clause de rachat de 60 millions d'euros.
Oui, alors ça, excuse-moi, mais je comprends pas en fait, parce que Braga.
En gros, ils ont une priorité. Si jamais Marseille veut vendre,
mais Braga, jamais ils vont acheter. Jamais ils vont acheter un joueur 60 millions, Braga, c'est n'importe quoi.
Mais bon, en tout cas,
cette clause-là, elle sert pas à grand-chose selon moi. Mais
oui. Oui,
voilà. Voilà toutes les informations de Florent Germain, bien sûr.
Non, mais 10%, c'est pas énorme. Hein. Unai, je crois que c'est plutôt négocié entre 20 et 30%, hein, par exemple, avec Angers. Donc 10%, c'est vrai, pas c'est 30%. Comme ça se fait aujourd'hui. Et de toute manière, il fallait qu'il rafle la mise. Il y avait Brighton, il y avait des clubs anglais. Donc tu dois être innovant quand tu as un club anglais face à toi, qui a beaucoup plus de moyens que toi, qui peut envoyer de l'argent sans problème, qui limite et nos limites.
Au-delà des éléments financiers, du montage et tout, mettons-nous d'accord pour dire qu'effectivement, les trois qui arrivent là, c'est plutôt prometteur. Quoi.
C'est plutôt bien, c'est plutôt un bon mercato d'hiver.
Franchement, je vois pas en fait qu'est-ce que vous pouvez avoir de mieux. C'est ça qu'il faut dire. Aujourd'hui, avec les moyens de l'OM.
Le problème, c'est que peut-être que Mofi, c'était mieux que Vitinha.
On verra dimanche, ça. On verra dimanche. Il y a
tu sais que Mofi ne peut pas jouer demain, mais va jouer dimanche contre l'OM, son premier match.
Oui, voilà. On verra Mofi et Vitinha face à l'autre. Peut-être on verra son Arsenal sur un match lequel va mieux se détacher. Après, Mofi, moi, j'étais pas ultra emballé sur Mofi. Il est bon à Lorient, mais c'est pas le style d'attaquant que j'aime.
Alors, Florent m'explique l'histoire de la clause des 60 millions. C'est, en gros, si Vitinha devient extraordinaire, imaginons qu'il vaille 150 millions. Je dis un truc de fou. Et ben là, Braga, ils peuvent faire quoi? Vu qu'ils ont la priorité, ils peuvent le racheter eux 60 pour le revendre 150. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais est-ce qu'on a le droit légalement de faire trois clubs en enchaîné comme ça? Je suis pas sûr que c'est autorisé.
Bon, je pense que si la clause existe, c'est que ça a été juridiquement bordé. Sinon, ça n'aura aucun sens. Enfin, voilà l'explication de cette clause.
Non, ok. Bon, j'espère qu'on pourra au moins le vendre 60 millions alors. Moi, je m'en fous. Tous les cas, je veux qu'il soit bon à l'OM. Il a un contrat long, il peut arrêter 2-3 ans.
Oui, ça fera aussi du sous pour l'OM, c'est sûr.
Franchement, je m'en fous. Je vous dis, moi, les joueurs, je m'en tape. Tant qu'ils nous font gagner, tant qu'ils sont bons, tant qu'ils ne nous mettent pas dans le mur.
Alors, est-ce que le gars. Ce qui est vrai.
Il a voulu venir à l'OM, apparemment. Franchement, je vais pas me plaindre. Le gars a voulu venir. Il y a d'autres. Apparemment, Brighton a aligné un salaire plus gros. Il est quand même venu à l'OM. Moi, je me plains pas. Je suis content. Je m'en fous de la cause de la revente.
Ce qui est intéressant sur le type de joueur, quand même, et là, je pense que vraiment, les adversaires de Marseille, pour ceux qui les ont rencontrés récemment, ils doivent se dire au secours. Parce que là, ils prennent encore, et Unai, Walid Regragui, hier, le sélectionneur, nous l'a redit. Des gars qui courent énormément, qui font beaucoup d'efforts, qui viennent rechercher le ballon.
Il est content, il a des joueurs dans le profil qu'il aime.
Il a des joueurs qui
d'ailleurs, il est content, il l'a dit.
Oui, il a des joueurs dans le profil qu'il aime et de la rotation. Parce qu'on lui a un peu reproché quand même, et c'est vrai que c'est un reproche qu'on pouvait lui faire, au début, de ne pas faire assez tourner, de ne pas assez changer. Là, il va avoir la possibilité de le faire, et avec des joueurs toujours dans ce style. Là, sachant ce que les adversaires de l'OM ont vécu, tu vois, par exemple Rennes sur sa première mi-temps contre Marseille, même Monaco dans la deuxième là l'autre jour, ils doivent se dire attention quand tu te tapes Vitinha, Alexis Sanchez, comme le disait tout à l'heure Nico, et quand t'es défenseur ou gardien, tu sais que tu vas souffrir.
Fabrice, Rennes 9 là.
Le contrat de Ismaël Garbi à Nice est arrivé à 23h04. Donc ils sont en attente, le marché fermé à 23h pour l'envoi des contrats à la LFP, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils sont en attente, et l'entourage d'Ismaël Garbi et le Paris Saint-Germain, de savoir s'ils vont avoir une dérogation de la Ligue. On l'a dit aussi qu'il y a eu un petit bug tout à l'heure, on va savoir s'il va pouvoir leur profiter. Et puis Keylor Navas qui s'envole en prêt finalement à Nottingham.
Ça c'est fait.
Donc ça c'est fait, on peut le valider, il suffit juste
donc
maintenant...
Donc PSG change de gardien 2.
Oui, effectivement, maintenant c'est Sergio Rico, et numéro 3, Le Tellier. Et puis il restera, pour compléter PSG, le dossier PSG, évidemment, il restera Hakim Ziyech, savoir si c'est complètement signé, mais bon, ils ont une heure encore pour le faire, enfin un petit peu moins maintenant, a priori ça devrait le faire.
Dans un instant, on parle de mercato des autres clubs, parce qu'il n'y a pas que Paris et Marseille. Bien sûr, je remercie Tom au 32-16. Et puis, je vous signale que Newcastle s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre. Ce serait peut-être un premier titre pour Newcastle, nouvelle formule, le Newcastle saoudien. D'ailleurs, je vous renvoie à un podcast After Galaxy consacré à Newcastle, fait par Nico Villas, bien sûr, toujours de qualité. Dans un instant, les retours. Mercato, programme Ligue 1, bien sûr, avec un petit bilan club par club. On va parler de Rennes, on va parler de Lille, on va parler de Nice et des autres. À tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec Florent Gautreur, avec Fabrice Hawkins, car le mercato donc c'est conclu à 23h en France, même si vous l'avez compris, il peut encore se passer des trucs. Déjà parce qu'apparemment le site de la Ligue, le logiciel de la Ligue qui enregistre les mouvements est planté. À moins que ça remarche, je sais pas, si t'as un accès direct, Fabrice.
Ouais non, pour l'instant j'ai pas d'accès direct, mais en tout cas ce qu'on me dit c'est qu'on croise les doigts, parce qu'apparemment il y a pas mal de transferts qui se sont faits un petit peu sur le gong, donc on espère que ça va passer.
Ça, c'est quand même. Les mecs, ils ont un mois pour bosser. Et t'as l'impression que tout se décide dans la dernière heure. C'est quand même, à chaque fois, c'est incroyable, cette histoire.
Ouais, on prend l'exemple d'Hakim Ziyech, par exemple. Il n'était pas censé venir forcément, donc Ismaël Garbi pensait rester, et finalement...
Ils ont foutu quoi toute la journée, les mecs, pour que ça se fasse à 23h04
bah, Chelsea, Paris Saint-Germain, on n'a pas réussi à se mettre d'accord.
C'est, non, mais c'est un peu fou.
Côté,
quoi.
On attend la dernière minute, c'est toujours assez surprenant. Quoi.
Bon. Alors, un mot sur Rennes, les gars, qui enregistrent l'arrivée d'un nouveau latéral droit, donc on en parlait hier, hein, Jed Spence. Fabrice, tu connais?
Oui, c'est un joueur qui est assez intéressant. On m'a dit le plus grand bien, généralement, quand il y a des mouvements comme ça, effectivement, qui vient de Tottenham. J'essaie de prendre un petit peu de renseignements auprès des scouts. C'est un joueur qui a pas forcément été au niveau auquel on l'attendait sur les dernières années. Et on veut vraiment le faire progresser du côté de Rennes et du côté de Florent Maurice.
Donc il y a une sorte de filière qui s'est mise en place entre Tottenham et Rennes, alors.
Ouais, on sait
que Théâtre vient également de là-bas.
Oui.
Étonnant.
Théâtre, il est en Italie. Théâtre, il vient d'Italie. Hein.
C'est une fois avec Rodon, peut-être.
Ah, oui, Rodon. Non, c'est l'autre.
Théâtre vient d'Italie. Non, en revanche,
c'est à Bologne.
Rodon, oui, bien sûr. Et... Je savais qu'il y en avait un, des défenseurs centraux qui venaient de là-bas. Mais
ouais,
voilà.
Jed Spence, c'est un grand défenseur, 1m85, très rapide. Donc là, par rapport à ce qu'on disait sur les profils par rapport à Rennes, en tout cas, ça colle dans ce qu'ils veulent faire. Et effectivement, donc il y a pas Traoré là qui est blessé, Assignon qui est blessé, donc il va tout de suite être mis à contribution. Pour info d'ailleurs, dans la compo de Rennes demain, il reconduit la défense à 3, enfin à 5 si on veut, Genesio. Et dans les pistons, dans les couloirs, on aura Bourigeau côté droit, vu les problèmes actuels. Et Omari qui revient dans la défense parce que Christopher Wu est suspendu. Donc c'est encore un truc un peu expérimental. En fonction des absences.
Alors, sur Rennes, il y avait un autre truc qui pouvait se passer, c'était Souleymana. On attendait éventuellement un départ. Il y avait des offres à près de 25 millions pour Souleymana. Savoir Xavier Grimaud, d'Everton, de Southampton.
Ils l'ont pas vendu?
Non, finalement, ça n'a pas pu se faire pour Kamaldine Souleymana. Et pourtant, il y a pas mal d'offres, hein, comme le disait Xavier Grimaud, lui qui aura forcément.
On te file 25 millions pour un mec que tu fais pas jouer? En général,
Non, mais oui, il voulait le vendre. Hein, lui, il y a deux clubs qui ne voulaient pas. Je sais plus, il en restait un, Souleymana lui-même. Mais c'est vrai que si ça s'est pas fait.
Il fallait vendre direct à ce prix-là.
Ah, mais il voulait le vendre. Hein, il voulait le vendre, c'est sûr. Je sais pas pourquoi ça s'est pas fait, mais. Un petit peu embêtant. Bon. Là, pour le coup, il y a abondance de biens sur des joueurs qui sont pas forcément dans le rythme rennais.
Bon. Sur Rennes, rien d'autre, Fabrice, on peut passer à un autre.
Non, club. Ils ont fait Karl Toko Ekambi. C'était une volonté de Florent Maurice, du coach également, de le faire venir de Lyon. Ils le connaissent bien, Bruno Genesio. Ils espèrent le relancer. Puis plus globalement, ils vont aussi s'appuyer sur les jeunes, avec notamment Amine Gouiri, ceux qui sont déjà là. C'est un groupe quand même assez jeune. Hein. Il y a pas mal de blessés en ce moment, en plus à Rennes. Donc l'idée, c'est de continuer à progresser avec ces joueurs-là.
Et dis-moi, Galtier, il a été consulté par Hakim Ziyech?
C'est très intéressant, ça. Galtier, moi, de ce que je sais, c'est qu'effectivement, il voulait, et il l'a dit en conférence de presse, avant les matchs, après les matchs, remplacer absolument Pablo Sarabia. Ça, c'est ce qu'il a dit, évidemment, face caméra. Ce que je sais aussi, c'est qu'il souhaitait quand même l'arrivée...
Il souhaitait remplacer un joueur qui ne jouait jamais. Il voulait un autre joueur qui ne va jamais jouer.
Après, ça dépend du système, parce que s'il joue en 4-4-2 à plat, comme il l'a fait le week-end dernier contre Reims, on peut l'imaginer à droite à la place de Carlos Soler, par exemple, Hakim Ziyech.
En fait, ça n'a jamais été un 4-4-2 à plat dimanche, Fabrice. Neymar, tu ne le fais jamais jouer dans un 4-4-2. Hein.
Je pense qu'il démarre comme ça, et puis très rapidement, il sent que c'est compliqué par rapport à l'opposition du stade de Reims, qui avait bien compris le système de jeu, le plan de jeu, et puis il s'adapte.
Mais Galtier était au courant quand même que Ziyech arrivait?
Je suis incapable de te répondre à cette question.
Et Campos a réellement voulu Kim Ziyech.
Ah, ça aussi, ça fait. Moi, j'ai entendu toutes les versions. S'il est là, c'est qu'il a dû être validé en haut lieu. Après, que ce soit un dossier Luis Campos, je peux pas l'affirmer à 100% parce que j'ai eu aussi des sons de cloche divergents.
Mon Dieu.
C'est ça qui est inquiétant, c'est que
j'ai posé une bonne question. Ouais, je sais pas pourquoi je sentais un truc.
Non, mais t'as posé une bonne question parce que on parlait de panic buy entre guillemets tout à l'heure. Là aussi, ça ressemble à ça parce que quels sont les besoins du Paris Saint-Germain? Quelle est la priorité? Depuis cet été, ils sont sur Skriniar, à juste titre. C'est là qu'il faut y aller. À la fin, t'es à la fin, il est 23h35.
Tu l'as, mais au mois de juin.
Donc t'as pas réglé ton problème là, parce que quand même, on sait qu'il y en a un pour les matchs, il y a à venir, hein, ceux qui arrivent dans 4-5 jours, et avec ce gros mois de février. Et ça, le PSG n'arrive pas à le faire. Et en revanche, à la fin, tu récupères un nom qui n'est déjà plus un joueur de première jeunesse, et on sait qu'à chaque fois qu'un joueur, quand il a dépassé 25, 26, 27 ans, qu'il arrive au Paris Saint-Germain, il y a gros danger. Pour lui, d'ailleurs. Avant tout. Parce qu'il y a des joueurs qui disparaissent en mode Wijnaldum et autres. Il y a l'effet PSG qui est terrible. Donc, c'est vrai que c'est pas, ça n'a rien à voir avec la qualité ou les défauts de Hakim Ziyech. C'est un très bon joueur de foot. Mais des très bons joueurs de foot, il y en a, en fait, au Paris Saint-Germain. Donc, la question est de savoir, est-ce que le PSG se renforce avec Hakim Ziyech ou se crée à l'inverse de nouveaux problèmes. Et la question que pose Daniel sur, qui est incroyable, c'est une question qu'on devrait même pas poser dans un club. C'est comme si tu disais à Rennes, par exemple, est-ce que Florian Maurice est au courant d'eux? Tu vois, non, bah, le directeur sportif, oui, il est au courant, il a la manœuvre. Mais au Paris Saint-Germain, tu peux poser la question de savoir si le directeur sportif, si toutes les composantes sont absolument sur la même longueur d'onde pour le seul transfert le seul transfert du mercato d'hiver.
Sache que ce n'est pas pour rien que j'ai posé la question.
Alors les gars, j'ai l'histoire du mercato là. Ah. C'est Nicolas Paul Orsi qui nous l'envoie.
Ah, Bordeaux.
Bordeaux travaillait
C'est rigolo ça.
Bordeaux travaillait au recrutement d'un attaquant pour compenser le départ de Ellis qui est parti à Brest.
Mais Ellis qui jouait pas sur les ailes.
En effet. Alors un accord avait été trouvé avec un joueur étranger, deal quasi bouclé, et Edmar Lopez devait partir pour signer, pour faire voilà. Sauf qu'il s'est fait piquer son sac avec son passeport dedans, donc il a pas pu prendre l'avion. Bah donc pas de transfert.
Ah, Edmar Lopez travaille toujours à Bordeaux.
Bah, apparemment. En plus, il n'a plus de passeport, là. Du coup, il.
Ah, bah merde alors. Ils sont sérieux, en tout cas.
Cela dit, il fallait peut-être envoyer quelqu'un d'autre. Hein.
Il se fait gauler son sac.
Alors, à une époque, quand tu voyageais beaucoup et que tu avais des demandes de visa en cours, c'est le cas quand j'étais reporter à France Télé, tu avais droit à avoir deux passeports. Donc, des gens qui sont comme ça, qui voyagent beaucoup, ils doivent avoir deux passeports.
Hein. Oui, mais ça, c'est que des journalistes. C'est un petit privilège de journaliste.
Et alors, t'as pas ton passeport ouais. Et sa carte d'identité, là.
La carte vitale, ça marche pas.
Ouais.
Alors, il y a une rumeur lyonnaise là ce soir, moi, tant que je n'ai pas de confirmation officielle d'Edouard G, conditionnel. Non, c'est Pathé 6, joueur du Rayo Vallecano. Alors, je sais pas si t'as les infos, Fabrice, là-dessus.
Oui, j'ai des infos. Ils avaient trouvé un accord, dans les dernières heures du mercato parce qu'ils avaient plusieurs pistes, et Chirou, et le président Aulas, évidemment. Ils voulaient absolument faire un milieu défensif. Il y avait Elias Kiri en premier lieu.
Ah oui, ils le voulaient absolument, sa sentinelle.
Ouais, effectivement, ils sont renseignés aussi sur, Timo
là,
Bakayoko.
C'est le fameux profil à Loudira, hein, Pathé 6. Là,
C'est exactement celui-là. Milieu de terrain défensif sénégalais, je le disais, accord entre toutes les parties, mais il fait partie de ces joueurs-là qui sont arrivés un petit peu sur le gong. Il faut savoir, là, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, si ça va être validé. Moi, des premiers échos que j'ai, ça sent pas très bon.
Ah, bah, justement, on a Thomas. Alors, figurez-vous que Thomas est supporter du Rayo Vallecano, donc il connaît Pathé 6. Salut Thomas.
Salut à tous. Salut
Thomas. Vous m'entendez ? On t'entend très bien.
Ah bah plaisir, alors ouais. Bah écoutez, ouais, je suis supporter du Rayo, donc ma famille est de Madrid.
D'accord.
J'habite à Genève, donc c'est un peu spécial. Et depuis tout petit, en gros, je suis pour le Rayo. Et j'étais au match justement hier à Villarreal, qu'on a gagné 1-0 là-bas. Uh-huh. Et j'ai pu voir du coup de nouveau Pathé 6 jouer. Et je vous avoue que si ça se fait, c'est une énorme affaire pour le Rayo. Hein.
Pourquoi il n'est pas au niveau ?
Bah déjà, il est remplaçant chez nous, donc il faut savoir que le Rayo, c'est quand même un club de plutôt deuxième partie de tableau, même si on a réussi à faire à nouveau un très très bon premier tour. Donc il est remplaçant de Santi Comesaña et puis Oscar Valentin, qui sont les deux 6, et il entre souvent dans les matchs pour mettre son impact physique, mais après sinon tactiquement et techniquement il a de la peine, ouais. Et on va réussir à bien le vendre grâce notamment à son très bon deuxième match de Coupe du Monde où il était titulaire avec le Sénégal.
Bon, donc là, Lyon, si ça se fait, est en train de prendre un remplaçant du Rayo Vallecano.
Non, mais il se passe un truc dans ce mercato. Il se passe un truc très, très intéressant, puisqu'on parle un peu des valeurs que représentent les clubs. C'est que Lyon est totalement déclassé dans l'esprit des joueurs. Ce qui se passe avec Skiri et avec d'autres.
Skiri qui a refusé.
Oui, puis mais d'autres, parce qu'en fait, on parle de cela parce que ces dossiers-là, on les connaît, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, pour plein de raisons, même par rapport à d'autres clubs français. Alors tu peux avoir des choix par rapport à d'autres coachs, parce que le Brice t'appelle, parce que voilà, tu peux avoir des choix financiers évidemment, et puis tout simplement parce que Lyon ne fait pas de Coupe d'Europe, est encore aujourd'hui, je sais plus si c'est son 8e ou 9e au classement. C'est ce qu'on appelle un déclassement sur un plan sportif, c'est-à-dire que les joueurs ne veulent plus venir à Lyon.
Mais le prix en plus est important parce qu'ils vont payer 6 millions. Donc le joueur a une clause de 10, il a 28 ans, avec des variables, il parle que ça pourrait atteindre justement ces fameux 10 millions. Franchement, je trouve ça... Enfin, en tout cas, tous les supporters du Rayo, tous les journalistes, en tout cas proches du Rayo, sont...
Non mais surtout, rappelez...
Il n'y a encore rien d'officiel,
ne perdez plus votre temps à parler de lui, il ne viendra pas.
Ah, bon ben voilà.
Alors déjà...
Thomas, tu récupères Patessi, on te l'annonce.
Voilà.
Tu l'as sur le banc.
Donc débrouille-toi avec, tu pourras le voir dans le prochain mercato peut-être.
Et pour compléter l'analyse du mercato lyonnais et du déclassement sur la réputation lyonnaise, il y a aussi l'affaire financière, est-ce qu'on a promis aux supporters. On rappelle que quand Textor négociait pour acheter le club, on a parlé d'une enveloppe de 40 millions.
Ah, d'accord. La fameuse enveloppe. Elle n'était pas plus élevée l'enveloppe?
Déjà 40 millions. Il se trouve que là, tu as vendu
papier Kraft, hein, marron épaisse là.
Tu as celle de Gilbert Collard.
Je me souviens de ça.
C'est une affaire un peu difficile quand même. C'est une affaire un peu compliquée. Ouais. Et comment dire, tu vends Malo Gusto 30 millions. Pour la fin de l'année, mais tu le vends quand même. Donc en fait, ils ont promis un mercato avec des arrivées pour 40 millions. Pour l'instant, tu as des départs pour 30 millions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au final? Il y a qui à Lyon?
Ah bah si. Amin Sarr, Jeffinho, Lovren, Sarr, Jeffinho.
Le petit Jeff est arrivé.
Et donc tu feras le décompte, mais le compte n'y est pas en tout cas par rapport aux promesses.
C'est pas que le compte n'y est pas. Le seul poste où ils ne vont pas être en phase avec ce qu'ils voulaient et ce que Laurent Blanc voulait, c'est ce poste de milieu défensif. Pour le reste, ils voulaient surtout enlever des joueurs du vestiaire qui ne correspondaient pas à ce que Blanc avait envie de mettre en place maintenant. Donc, en gros, il y avait cette idée de purger un peu le vestiaire. Ça, ils l'ont fait. Ils ont enlevé des joueurs. Ils ont recruté 2-3 mecs. Donc, ils sont plutôt en phase avec ce qu'ils voulaient faire, sauf sur ce poste-là. Sur ce poste-là, ils n'ont pas trouvé le 6.
Ouais. Et Lyon a également tenté Bakayoko aujourd'hui. Hein, vous avez vu
Oui, Bakayoko.
Tu nous as pas dit ça.
Si, je te l'ai dit.
Ah bon?
Oui, je t'appelle.
Ah, pardon. J'ai pas entendu.
Et qui avait joué 0 minute, je crois, cette année.
Ouais, et puis enfin, ils l'ont tenté. C'est plus un joueur qui a été proposé.
Ouais, il est un peu plusieurs semaines. Parce que le marché a commencé à savoir que Blanc voulait absolument le 6.
Exactement.
Donc là, ils ont tous envoyé. Tiens, moi j'en ai un. Tous les agents ont appelé avec le catalogue. Et Bakayoko était dans un des catalogues. Il est dans le catalogue de qui d'ailleurs?
Ça se passe comme ça, c'est des intermédiaires. C'est-à-dire que n'importe qui veut un petit peu bosser, qui a le numéro du directeur sportif de Lyon, il appelle le joueur et il dit oh mais moi je peux te présenter par exemple où je peux t'emmener à Lyon, et ensuite il appelle le directeur sportif de Lyon et voilà, il essaye de faire le deal comme ça.
Bon, très bien. Edouard nous précise quand même, parce qu'il est là à l'écoute et il nous envoie les infos. La fameuse enveloppe des 40 millions, c'était pour le mercato d'été 2022 et janvier 2023, et c'était féminine et masculin confondus.
Ah oui, c'est féminine.
Ah oui, beaucoup de trucs dans l'enveloppe.
Ça, je savais pas qu'il y avait féminine.
Enfin, pour le mercato féminin, c'est une enveloppe, hein, c'est l'enveloppe la petite, celle des vœux là. Toute petite, il n'y a pas besoin de beaucoup d'oseille sur le marché des foot.
Ah, féminin. Attention, hein, les joueuses, elles ne sont pas gratos.
C'est l'enveloppe avec le petit billet d'anniversaire.
Mm. Bon, et puis Lyon, quand même, une info officielle, c'est que Paul Hurstbeck, le gardien, a été prêté à Lorient. Voilà.
Ah oui, ça, c'est vraiment la news qui vraiment fera du bien dans cette dernière heure. Là, vraiment,
Lyon, ils sont transparents parce qu'à chaque fois, il y a des communiqués clairs, précis sur ce qu'ils font.
Sur des visites médicales ratées.
Exactement. Exactement, ils font ça bien. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une pause et ensuite on va parler d'autres clubs. On va dire un mot des clubs qu'on n'a pas cités, Monaco, Lille, par exemple. Que va-t-il se passer ou que s'est-il passé? Et puis à la fin, on va parler de Skriniar, hein, dis donc. Depuis le début.
Skriniar ne viendra pas.
Il est au mois de juin.
Skriniar ne viendra pas.
Encore ce matin, c'était possible, quoi.
Bien sûr, ils ont essayé toute la journée
pour qu'il vienne à Paris tout de suite. Oui. Hein.
Et il n'était pas sur la feuille de match ce soir, paraît-il. perturbé par le mercato.
Bah, il espérait venir.
Perturbé.
Voilà, bah, il viendra l'été prochain.
Si Flo, tu lui avais dit.
Il attend de visiter les apparts.
Ce soir, tu vas manger ça. Maintenant, finalement, je t'ai changé ton menu. Il n'y a pas dans l'after. C'est perturbé.
Oh, okay. Flo, t'inquiète, il est toujours avec son jambon beurre. Il a ses habitudes, Flan.
Non, ce soir, j'ai fait taboulé.
Ah.
Juste taboulé, comme ça.
Ouais.
Ça te suffit pour dîner. Petit taboulé.
Non, j'ai ajouté quelque chose de sucré derrière.
D'accord. Tu manges vraiment light.
Petit dessert. Hein.
Wow. Un petit taboulé et un petit dessert, c'est light. Hein.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, comme je fais pas beaucoup de sport en ce moment, parce que je suis un peu à l'arrêt, là, donc. Allez, gaffe.
À tout de suite dans l'affaire avec d'autres infos mercato jusqu'à minuit. Il est 23h46. On se retrouve dans une minute.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
23h47, encore un petit quart d'heure de mercato avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo, avec Fabrice Hawkins. Vous savez qu'on est une semaine de dingue hein, dans l'after. Hier, on avait Walid Regragui avec nous, qui nous a dit plein de trucs intéressants. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'interview en podcast. Évidemment, l'intégralité est disponible en podcast. Podcast d'hier soir, 22h, 23h. Demain, soirée Ligue 1, 10 matchs de Ligue 1 demain. On sera jusqu'à minuit et demi avec vous dans l'after demain soir. Et puis jeudi, on a une émission surprenante, vous verrez.
On n'a toujours pas le droit de le dire, ça ?
Non, on n'a pas le droit. Découvrirez ça parce que c'est la règle qui est fixée.
Ah, c'est pas parce qu'on veut faire une surprise, c'est parce qu'il y a une règle.
C'est parce qu'il y a une règle qui est fixée.
Ah, d'accord.
22h jeudi.
On ne peut pas faire un jeu de mots pour dire non.
On ne fait aucun jeu de mots. On est énervé, j'ai bien. Exactement.
Non, mais j'ai demandé.
Quand on s'engage à respecter un accord, on le respecte.
D'accord. Donc, ne fais pas chier, s'il te plaît.
En tout cas, on sera pas chez Noël Le Graët, si tu veux savoir. C'est ça ton indice.
Pas chez moi, en tout cas.
Ni chez toi.
À Guingamp, dans sa grande maison.
Non plus.
C'est qu'elle est grande sa maison, elle a l'argent.
Non, mais lui, par contre.
Il veut même y aller en famille. Hein?
Mais lui, par contre,
ne sera pas dans le studio non plus.
Il sera pas dans le studio, mais il pourrait.
Alors, parlons des autres clubs. Ligue 1, cher Fabrice. Lille, rien.
Oui, effectivement.
Il y a des clubs ou rien?
Pas de gros mouvements, ils ont récupéré Benoît Coustil, donc ils font ça leur permet aussi d'encadrer Lucas Chevalier, le jeune gardien. Ils ont énormément confiance en lui, ils viennent de le prolonger jusqu'en 2027. Mais c'est vrai qu'à Lille, il s'est pas passé grand chose. Ils ont laissé partir si
Isaac Yadji qui arrive en fin de contrat. Lucas Chevalier, c'est-à-dire genre s'il sort bar, boîte de nuit, tout, c'est là il va l'encadrer. Comment ça va se passer? Mais pareil, qu'il sort plus maintenant. Bon, t'es mauvaise langue hein, quand même. C'est fou ça.
Isaac Liadji qui est parti sinon à Sunderland.
À lui, ouais. On l'avait complètement oublié ce joueur.
Bah ouais, il est arrivé.
Donc il y a quand même un club anglais qui a décidé de parier sur lui.
Après, quand on a plutôt un bon agent, ça permet.
Ils ont été attaqués sur Bomba, je pense.
Oui, sur Nice, Jonathan Bomba, Nice. Mais c'était moins sérieux quand même que ce qui s'est dit. Hein.
Ouais.
J'ai vu Nice, j'ai vu même l'OM, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu. Ce sont des clubs qui sont sur lui, qui le suivent depuis un moment, qui discutent avec son entourage, mais il n'y a pas eu de vraie attaque sur lui.
Et juste sur Lyon, il y a deux choses qu'on n'a pas dit quand même. C'est Aouar et Dembélé.
Oui.
Parce qu'ils ont refusé des offres. En gros, pour rester là tranquille.
Dembélé.
Prendre la thune, pantoufler.
Ah, c'est combien de fois, je vais te le répéter. Dembélé, ça fait des mois que je vois un peu l'histoire.
Bah, Aouar, en fait, c'est les clubs qui se sont mis d'accord. Lyon s'est mis d'accord avec l'AS Roma, c'est-à-dire pour le laisser partir libre.
Ah, Roma, c'est un gros club, oh, et Aouar, il veut pas aller à Rome.
Bah, ce qui s'est passé, c'est que
il y a pire, hein.
Ils se mettent d'accord, l'OL et la Roma, et en gros, Lyon le laisse partir gratuit et récupère 30% à la revente. Sauf que Oussem Aouar, il l'a pris un petit peu au dernier moment, lui a présenté le projet comme ça à la va-vite, le directeur sportif de l'AS Roma l'a appelé comme ça, lui a présenté en 15 minutes le projet.
Ouais,
pas toutes les garanties, il n'avait pas toutes les garanties, il n'avait pas les tenants, les aboutissants, il a préféré pas y aller, pas foncer.
Voilà. Et sur Dembélé, je vais pas te raconter l'histoire pour la millième fois. Aouar, je ne connaissais pas l'histoire. Dembélé, il a des gens autour de lui, même s'il avait envie d'y aller, de bouger, ils lui ont dit, écoute, tu bouges pas d'ici, mon petit bonhomme, on veut la prime quand tu vas te barrer. Et ce sera une grosse prime.
Parce que Dembélé, il avait des offres d'Angleterre quand même, de première ligue.
Il demande une prime énorme. Non, mais il veut partir libre. Il n'aurait jamais bougé. Il avait interdiction de bouger.
Mais c'est pour ça que quand vous dites.
Interdiction de bouger. Il est un garçon, il est adulte, non? Il est quoi? Il est enchaîné à quelqu'un?
Oui. Il a des agents. Comprend ça comme t'as envie de le comprendre. Il a des agents.
Rien, c'est une
histoire. Tu bouges pas, tu restes là. Mais même lui, son intérêt, c'est de prendre le gros chèque qu'il aura quand il va partir.
C'est un intérêt concerté. Sauf que ça m'embrèche un peu l'idée que. De ce que vous avez dit tout à l'heure, ils ont fait partir, oui, ils ont enlevé Tokambi bien sûr, mais il reste encore des joueurs. Investir avec des joueurs comme ça, c'est pas facile.
Bien sûr.
Des joueurs qui jouent peu, qui jouent pas.
Toi, il fait pas beaucoup de bruit, mais il s'en fout.
Ouais, enfin, il fait pas beaucoup de bruit, mais il était dans la rotation au départ.
Il a son chèque et puis voilà.
Ouais, mais c'est pas. Je crois pas que ce soit. Franchement, vu l'atmosphère, ah non, c'est là, c'est pas facile à gérer pour Blanc d'avoir ces joueurs-là.
C'est pour ça que Lyon voulait purger son vestiaire. Mmh. Parce qu'il y a plein d'histoires comme ça qui arrivent au bout.
Il est pas purgé complètement.
Ah, ça, bon, la chasse, c'est pas complètement tiré.
Juste sur Lille, une petite info, mais qui n'a rien à voir avec le mercato. Jonathan David, forfait demain pour le match de Ligue 1. Fracture de la main. Voilà. Sinon,
tout le monde devrait faire d'ailleurs.
Des nouvelles de Nice, Fabrice?
Oui, Nice qui a plutôt bien fonctionné sur ce mercato avec les venues et les recrues du défenseur d'abord Youssouf Ndayishimiye et de Bachak Chehir, défenseur central qu'on connaît pas beaucoup, mais Florent Gisolfi, le directeur sportif de Nice, le voulait déjà à l'époque quand il était à Lens. On sait qu'il travaille bien, qu'il a aussi cet œil-là pour réussir à découvrir ces jeunes joueurs-là qui sont performants et qu'on connaît pas encore, qui vont exploser. Et puis évidemment Terem Moffi. Qui était voulu par l'OM. Pablo Longoria a tout fait, on l'a déjà expliqué, vous l'avez déjà expliqué dans l'after. Il avait déjà fait son choix, très convaincu déjà par le discours et de Bokeh et de Gisolfi.
Bon.
Un peu mon avis, ça, du soir, que t'as zappé.
Oui, bah là, on n'a pas le temps. Garde-le pour demain. Si on a le temps.
Demain, on n'aura pas le temps non plus.
Demain, on n'aura pas le temps. Dans un match, laisse tomber.
En une phrase, c'est qu'avec Gisolfi à la manœuvre, avec Moffi devant à la place de Delors, l'effectif qui est déjà bon, mais qui ne se mettait pas au travail avec Favre, peut être la bonne surprise de la deuxième partie de saison.
Je vous signale que Gravillon, lui, part de Reims pour aller au Torino, prépayant. Et puis, ça,
c'est pas un arrange, son agent.
Non, c'est Pascal Pire.
Ah, c'est Pascal Pire.
Et puis, je vous signale que Saint-Etienne recrute encore un milieu offensif droit. C'est un Ghanéen qui s'appelle Ibrahim Sadik, qui vient de Suède.
Qui ça?
Ibrahim Sadik.
Où ça? À Saint-Etienne?
Oui.
Ah oui. Déjà que le club va pas bien, c'est pour ça qu'il vient.
Il faudrait qu'on fasse une équipe des.
Ça s'écrit S-A-D-I-Q.
Hein, ouais. Il faudrait qu'on fasse une équipe des noms qui font peur. Il y a rien moyen.
Et là, il y avait par exemple Benet en Ligue 2 là, qui jouait, là, qui apparemment a fait un bon match.
D'accord.
Malgré son peu de QI football.
Voilà. petit mot à l'international, Fabrice. L'Inter s'est renseigné sur Pavard. Oui. Qu'en est-il de Pavard? Parce qu'on
le Barça aussi.
On en parlait à Barcelone.
Le Barça également.
Bon, le Barça, faut... jusqu'au bout, il devait faire Amrabat. Ça n'a pas pu se faire finalement.
Oui, parce que la Fiorentina voulait absolument le garder. D'ailleurs, furieux. Amrabat qui voulait, partir. Ouais, forcément. Et ça n'a pas pu se faire. Il est pas content. Et on va voir comment ça se termine pour lui.
Parce que c'était pas loin. Ça s'est emballé et tout au Barça. Il pensait vraiment qu'il allait arriver.
La Fiorentina, dès le départ, a dit il ne bougera pas. Donc ils avaient pris leur décision. Et puis concernant Gilbert, concernant Benjamin Pavard, c'est vrai qu'il y a pas mal de clubs parce qu'ils connaissent sa situation. Il y a João Cancelo, l'arrière droit de City, qui vient d'arriver. En défense centrale aussi, il y a du monde avec Upamecano, avec De Ligt. Lui veut jouer absolument en défense centrale. Il a eu un échange avec Nagelsmann il y a pas longtemps où ils sont expliqués les yeux dans les yeux, où lui a dit qu'il souhaitait jouer à ce poste-là. Donc on va voir comment ça va évoluer pour lui aussi. Ça va être important pour l'équipe de France, mais il est pas parti forcément pour être dans les
équipe de France pour Pavard.
Oui, tu as raison, il y a Didier Deschamps qui est resté.
On m'envoie une info. Pourquoi Patessis n'est pas venu? C'est Jérôme Thomas qui a cette info. Parce qu'il voulait avoir Galette comme entraîneur et jouer avec Moussa Sow pour avoir la triplette Galette-Saucisse. Et ça n'a pas pu se faire. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est Jérôme Thomas, il a que ça à foutre.
Et Jorginho qui va à Arsenal.
Oui, Jorginho qui va à Arsenal. C'est un joli coup, mais parce que Enzo Fernandez du Benfica va à Chelsea.
Donc ils ont fait. Non, mais
ça, c'est un coup énorme.
Franchement,
Chelsea, 120 millions d'euros.
Franchement, Chelsea, c'est une folie pure là, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de péter le marché des transferts. Là.
Contrat, a priori, sera confirmé, mais qui va au-delà de 2030.
Pourquoi pas 2040?
On parle d'un contrat à 2031.
Donc, là, franchement, c'est n'importe quoi. Là. Non, mais il va falloir qu'on en parle très, très sérieusement dans les prochaines semaines.
Bon, Fabrice, merci pour toutes ces infos.
De ces nouveaux contrats, parce que l'Angleterre est vraiment, vraiment en train de se détacher et de se couper complètement du reste de l'Europe. Et il va vraiment falloir que le reste de l'Europe s'organise parce que là, il n'y a plus moyen. Quoi. Les sommes dépensées sont astronomiques. Je crois qu'il. enfin, ils sont totalement isolés, c'est leur championnat, et puis à terme, même tu vas même te détacher d'eux en Coupe d'Europe, quoi.
Il va y avoir une Coupe
française. Tu peux plus rivaliser avec eux, enfin, c'est terminé, quoi.
Bon, sinon, Thauvin a signé à l'Udinese, ça c'est fait. Voilà, dernière info, merci.
Il y a Mbappé sur Twitter qui me dit que Pavard est rôti.
Ok.
Tu as déjà fait mieux.
Pas moi, hein, je cite mes sources, toi.
Très bien. Merci Fabrice. Toutes les infos mercato sur rmcsport.fr. Deux, trois petites infos pour conclure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que Neymar est forfait pour le match du PSG demain. Fatigue musculaire.
Il a tellement couru l'autre soir, il n'était pas habitué, hein, son corps a lâché. Hein.
Voilà.
Le pauvre.
Et puis une info quand même qui est pas mal à donner, Daniel, c'est qu'un tribunal de Madrid a réaffirmé aujourd'hui que l'UEFA et la FIFA ne peuvent pas sanctionner les clubs de la Super League si jamais ils organisaient une compétition parallèle.
C'est une décision hyper importante qui a beaucoup de conséquences. C'est pas à 40 secondes du gong que je vais développer là-dessus. Ça mérite qu'on en parle, pas demain soir parce qu'on n'aura pas le temps, mais probablement jeudi, parce que c'est une décision très importante. La Super League est plus vivante que jamais. Elle regarde la Super League qui est en train de se passer en Angleterre, c'est ce que je te disais il y a deux secondes, et il y a de plus en plus de clubs en Europe qui sont partants et qui discutent avec l'organisation. Ça, crois-moi, c'est de plus en plus solide.
Bah écoute, on pourra en reparler peut-être jeudi, on aura
absolument
le temps.
C'est vraiment le sujet du moment.
On finit par Survivor.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Ils ne sont plus que 4 dans l'équipe de l'After et quelques 450 parieurs sur Winamax.fr dans ce Survivor. Jimmy Brown joue Monaco qui reçoit Auxerre, tout comme Paul Vexu et Nicolas Villas. Et Thibaut Leplat joue Rennes qui reçoit Strasbourg, ce félon. Il va bien sûr perdre. Voilà, réponse. Demain soir. Merci Daniel, merci Florent.
Ciao.
Demain, la Ligue 1 est donc dès 23h l'after jusqu'à minuit 30 demain soir pour prendre le temps d'analyser tous les résultats du soir. Bye bye, bonne nuit.